un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Bienvenue à l'érotique Personal System, peut-on lire sur la page d'accueil du site. Un programme conçu pour augmenter le degré de satisfaction de l'homme pendant le processus de PMA et lui donner l'importance qu'il mérite afin d'obtenir le meilleur échantillon de sperme possible. On a démontré, continue le site du Centre espagnol, qu'un bon niveau d'excitation améliore la qualité du sperme et c'est la raison pour laquelle nous avons incorporé différentes méthodes de stimulation avec des films pour adultes en réalité virtuelle et des masturbateurs en forme de vagin et d'anus. C'est le deuxième épisode, aujourd'hui dans les pieds sur terre, de la petite série de Clément Baudet autour de son projet de don de sperme. Il y sera justement question de comment le recueillir, mais ça se passe dans un service public français, donc ça n'est pas tout à fait la réalité virtuelle à l'espagnol. Pour une réflexion plus approfondie sur ce thème, on pourra aussi lire l'article du chercheur Alain Djami dans la revue Kern, qui entend, je cite, « penser le sperme et le recueil de sperme ». Mais tout de suite, les paillettes, deuxième épisode.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Il y a quelques semaines, j'ai décidé de faire un don de sperme. Enfin, un don de paillettes, comme on dit à l'hôpital. Paillettes, c'est le terme médical pour désigner les petites pailles où ils conservent les spermatozoïdes dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Lors du premier rendez-vous, une médecin m'a rapidement posé des questions sur ma motivation, mes antécédents médicaux, et j'ai signé un consentement écrit. J'accepte en théorie. Mais le processus ne commencera véritablement qu'après ce deuxième rendez-vous au CECOS, le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, c'est le nom du service de l'hôpital. Aujourd'hui, je viens faire un premier recueil pour analyser mes spermatozoïdes, mon patrimoine génétique et faire une prise de sang.
Bon, monsieur Baudet, vous venez avec moi ?
Oui.
Allez-y, rentrez.
Merci.
Vous venez bien pour faire un don de sperme, c'est ça?
Ok.
Vous lavez bien les mains et le sexe avec le savon.
Mm-hmm.
Vous vous rincez bien, vous vous essuyez. Un petit coup de spray, que sur les mains.
Mm-hmm.
Hop. Vous faites votre clé dans les peaux. Et quand vous avez fini, vous sonnez, je viens récupérer votre recueil et le petit pot et je vous emmène faire la prise de sang avec la sage-femme. D'accord ?
D'accord.
Je vais juste vous demander votre délai d'abstinence, s'il vous plaît.
C'est 3 jours.
3 jours ?
Samedi.
C'est tout bon. Non, dimanche, lundi, 2 jours. On compte jamais le jour J ni le de l'acte ni le jour du recueil. Ouais.
D'accord.
Ok ? Est-ce que vous avez des questions ?
Non, je vois qu'il y a une télécommande.
Elle est là. Si vous allumez la télé, n'oubliez pas de l'éteindre. Ok, okay. Allez,
merci.
Je vous laisse. N'oubliez pas de vous enfermer.
Oui, merci.
Donc je suis dans le box numéro 3, avec une petite banquette violette, une protection jetable dessus, et un lavabo, et un petit écran de télévision accroché au mur, avec un petit écriteau dessus, avec écrit « Offert par Marc Dorcel ». Marc Dorcel, c'est un des leaders de production de films pornographiques en France. Ah, pas de signal, ça commence bien... Merci. On est sur du film porno classique très années 2000 avec des couples dans un salon qui commencent à faire l'amour avec des verres de cocktail à la main. Mais je suis quand même assez surpris que ce soit, en l'occurrence, Marc Dorcel, qui récemment en plus a été accusé de lien avec des proxénètes, donc c'est un peu gênant. Ok. Et là, il faut oublier que je suis dans un hôpital, dans un petit box, dans un couloir qui est assez passant, avec des infirmières qui passent juste derrière la porte que je viens de fermer à clé, que j'entends un petit peu raconter leur week-end. Faut que je me concentre. Je vais éteindre la lumière peut-être.
Oui. 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 Ah oui, pardon, excusez-moi.
Donc je le récupère, vous patientez deux petites secondes le temps que je donne ça à la technicienne.
Pas de problème.
Allez. Bonjour monsieur.
Bonjour. Oui, bonjour.
Alors moi je suis docteur de Maine en fait. Vous avez fait votre premier recueil.
Oui.
Voilà, donc là on va faire le bilan que sont les sérologies, donc toutes les maladies sexuellement transmissibles. On recherche aussi, en fait, des anomalies de l'hémoglobine.
Ok.
Et groupe sanguin. Caryotype, l'examen de vos chromosomes. Donc, c'est l'examen génétique qui est réalisé.
Ok. Donc là, le spermogramme, c'était pour voir aussi, j'imagine, le taux de
spermatozoïdes. En fait, on va faire un spermogramme classique, c'est-à-dire numération, mobilité, vitalité et morphologie des spermatozoïdes. Ça nous donne des indications par rapport à vos paillettes aussi, c'est-à-dire les paramètres qu'on va congeler, hein. Et qui, ensuite, au niveau de la congélation des paillettes, on va sacrifier une des paillettes qu'on va congeler aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle un test de décongélation qui nous permet, nous, après, pour l'utilisation des paillettes, de savoir si ces paillettes sont utilisables en insémination ou en fécondation in vitro.
Ok, donc là, en fait, c'est un peu les examens où je peux apprendre des choses sur moi, en fait.
Voilà, exactement. C'est des résultats qu'on vous transmettra.
Ok.
D'accord ?
Comment vous faites l'appariement, entre guillemets ? C'est-à-dire que là, s'il y a un couple qui vient vous voir, vous vous dites...
Alors, l'appariement, nous, anciennement, par rapport au couple hétérosexuel où le monsieur avait une stérilité, donc ça, la loi est très ancienne, donc on faisait un appariement sur les critères physiques relativement grossiers. Alors d'abord, appariement groupe sanguin, origine ethnique, couleur de peau, des cheveux, des yeux, taille plus ou moins, et groupe sanguin.
Parce que vous n'avez pas de photos des donneurs non plus.
Non, pas du tout. On ne fait pas du tout. Il faut enlever ce stigmate américain ou de ce qu'on peut voir à l'extérieur. Donc pas du tout. On n'a pas du tout de photos. C'est des critères comme ça très grossiers. C'est-à-dire que les lois de la génétique sont extrêmement complexes. Quand vous faites un bébé, ben, vous tournez une roue et puis il tombe ce qui tombe. Hein, c'est un petit peu ça. Donc est-ce que l'appariement physique a réellement une vraie importance ? Alors le but de l'appariement, c'était qu'il n'y ait pas un caractère choquant qui ressort. Notamment, à mon sens, l'origine ethnique, par exemple. Effectivement, dans ces cas-là, à respecter. Maintenant, quand on vient aux femmes seules, couples de femmes un peu plus, elles sont demandeuses souvent d'aller sur des critères physiques de la compagne qui ne portera pas l'enfant. Pour l'instant, on ne change pas nos façons de faire, puisqu'on n'a pas de décret, de toute façon, qui nous dit quoi faire exactement. On se met en accord avec les couples ou les femmes, hein, tout simplement. Et moi, je leur demande, en fonction de ce qu'on a, de ce qui est possible de choisir, si elles ont vraiment un critère rédhibitoire ou ce genre de choses. Globalement, elles s'en moquent un petit peu. L'année dernière, effectivement, on avait 15 donneurs. Idéalement, il nous en faudrait, 40, 50. Ça serait top, par an. Un donneur, dans son don, va aider en pratique 7 couples ou 7 personnes à avoir des enfants. C'est bon, j'ai répondu à vos questions.
Vous avez répondu à toutes mes questions.
Ah non, on pique. Vous aimez pas ça, comme tout le monde ?
Non, non, j'ai pas peur.
Bon, ça va. Okay. Mais globalement, moi, je dis les donneurs, les personnes qui arrivent à donner. Tous ceux que je reçois ont le même discours, donneur ou donneuse, hein, dans les en disant je donne des cellules pour aider des gens à devenir parents, mais surtout je ne fais pas des enfants. Il n'y a pas l'attente de dire, et c'est ce qu'il faut faire hyper gaffe au niveau des personnes qui reçoivent. Je pique. Ça va ?
Ça va.
Allez, on lâche. On remplit. Lâchez la main, c'est bon. Bah y est, c'est bon, c'est fini, c'était rapide.
Merci.
Allez, venez.
En sortant de ce rendez-vous, je réalise que 7 naissances potentielles, ça fait quand même beaucoup. Et comme le don est anonyme, je ne sais pas du tout qui pourra les utiliser. Alors, en attendant les résultats médicaux, et tant que rien n'est lancé, je me renseigne quand même sur d'autres manières de donner, peut-être de manière moins institutionnelle. Rien ne m'empêche ensuite de changer d'avis. Sur Facebook, je découvre l'existence de plusieurs groupes privés, où des couples de femmes cherchent des paillettes et des hommes postent des annonces pour se présenter. Don de sperme, donneur, receveur, 5200 membres. Lola, bonsoir à tous. Ayant un projet d'enfanter mais ayant plus ou moins dépassé l'âge requis pour que mon dossier soit accepté pour une PMA, j'aimerais savoir s'il y a des donneurs dans le 69. Marc, 34 ans, région PACA, en couple hétéro, méthode proposée artisanale ou semi-naturelle. C'est un peu le grand marché des paillettes, quoi. Puis il y a même des femmes qui postent les photos de leur test de grossesse positif. Ah ouais. Nous sommes actuellement sur Paris jusqu'à demain et cherchons un donneur métis ou noir pour aujourd'hui et demain, car ma femme est en pleine ovulation à ce jour. Bonjour, je suis donneur de sperme depuis 6 ans, avec 24 enfants nés ou à naître. Je fais des dons gratuits, sans sexe, sans coparentalité. Je ne me déplace pas, je fournis évidemment mes tests VIH et syphilis avec mes noms et prénoms. Les dons sont gratuits, mais je comprends que plusieurs méthodes existent. La majorité des femmes cherchent plutôt des méthodes artisanales, c'est-à-dire une insémination du sperme via une pipette de Doliprane, mais certains hommes défendent la méthode naturelle. Un rapport sexuel classique, ça marcherait soi-disant mieux, forcément. J'écris à certains donneurs pour savoir comment ça s'est passé pour eux. Audran, enseignant de 46 ans, accepte de me raconter son expérience.
Lorsque j'ai eu 40 ans, je me suis un peu réveillé tardivement en constatant que mes échecs sentimentaux ne m'avaient pas permis de fonder une famille ou d'avoir des enfants. Et je me suis dit que ce qui comptait le plus pour moi, c'était avant tout de donner la vie. Donc j'ai cherché sur Internet un peu au hasard comment faire et j'ai trouvé qu'il existait des pages Facebook ou même des sites dédiés au don de sperme.
Au tout début, ce qui m'anime, c'est laisser une partie de moi sur Terre. La peur de la mort. Une façon de survivre comme ça. Et après, au fil de mes expériences et de mes échanges, je me suis rendu compte que c'était plus subtil que ça. Donner la vie, c'est pas anodin. Il y a quand même des responsabilités, il y a des conséquences. Et c'est devenu plus concret, et donc pour moi, de plus en plus difficile de faire un don, entre guillemets, sec, comme on le demande souvent sur Internet. Sur ces pages Facebook, bon, effectivement, on y retrouve beaucoup de femmes en couple, beaucoup moins de femmes seules. Les attentes sont très, très précises. Il faut remplir une sorte de cahier des charges. Donc, il y a un côté pratique, c'est qu'on sait rapidement si on peut convenir à la personne qui recherche un donneur ou pas. Ça va du couple qui m'a proposé de faire un don de sperme dans une camionnette avec un ami qui viendrait chercher la substance à un couple de femmes qui m'invite chez elles pour être bien sûr qu'elles ne font pas une bêtise et que le don provient de quelqu'un sain d'esprit et qui n'a pas forcément multiplié les dons par dizaines. Ce que j'ai vécu dans mes échanges déjà, c'est énormément de méfiance et de suspicion. Finalement, il s'agit de faire un don avec des gens qu'on ne connaît pas du tout et avec lesquels les conséquences peuvent être extrêmement lourdes. La reconnaissance d'un côté, de l'autre, la demande de pension alimentaire, par exemple. Les échanges sont assez raides. C'est vrai qu'il m'est arrivé souvent, mais ça, je peux le comprendre, d'envoyer ma photo et puis de plus avoir de réponse. Ça arrive assez souvent. En fait, j'ai l'habitude tous les jours d'aller consulter un petit peu pour voir si quelqu'un m'a laissé un message privé. Et une fois, j'en ai un, donc d'une jeune personne de 29 ans qui avait rédigé une annonce, un texte assez clair et qui m'avait semblé assez franc. Et puis, ce qui m'a plu, c'est qu'elle m'a rapidement donné un rendez-vous après qu'on se soit appelé une fois. Et en fait, elle m'a touché et elle m'a donné envie de faire ce premier don. Donc, je me retrouve dans sa salle de bain. Je recueille un échantillon que je verse dans un petit pot. On garde le contact. Et moi, je commence à me dire qu'on est dans une rencontre amicale, hein, bien sûr, pas autre chose. Hein. Et donc, en discutant, elle me fait réaliser que si le don fonctionnait, celui que je lui avais fait, on n'aurait plus aucun rapport ensuite. Par la suite, j'apprends que le don n'a pas fonctionné et je décide de plus la revoir pour me protéger parce qu'effectivement, je pense qu'elle avait raison. On ne pouvait pas, multiplier des rencontres et créer une relation pour ensuite ne plus jamais se revoir parce qu'elle tombait enceinte. Il y avait quelque chose de contradictoire dans cette démarche. Donc, voir l'enfant qui provient de votre don et savoir qu'il grandit en bonne santé, qu'il est entre de bonnes mains et qu'il est bien éduqué, pour moi, c'est très important. Mais comme on est dans la peur mutuelle les uns des autres, l'idée chez beaucoup de femmes, et je peux le comprendre, c'est de ne surtout plus avoir de nouvelles du donneur, de peur qu'il entreprenne des démarches qui viennent un peu saper le projet qu'elles avaient mis en place. En fait, je recherche un entre-deux que je ne trouverai pas en réalité.
Entre la mise en contact sur Facebook et l'insémination artisanale, l'expérience de don sauvage ne m'inspire pas vraiment. Je pense que je serais incapable de donner de cette manière. C'est bien trop engageant en temps et en responsabilité. C'est à ce moment-là qu'un autre donneur me répond sur Facebook.
Je m'appelle Victor, j'ai 33 ans, je vis en Auvergne-Rhône-Alpes et je suis entrepreneur. Donc moi, j'ai commencé à faire des dons de sperme en 2010. J'avais à l'époque 20 ans. J'étais un étudiant en classe préparatoire et il y a eu un sujet sur comment étaient faits les dons de sperme en France. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est que le fait que les couples de femmes ne pouvaient pas avoir accès aux dons de sperme. Ce qui m'a aussi poussé à faire des dons, c'est le fait que moi-même, je sois homo. Donc, je voulais que les couples de femmes aient accès aux dons de sperme. Je crois que très rapidement, j'ai décidé de rencontrer les femmes avant de passer aux dons. Je me disais quand même, on n'est pas des animaux, on va quand même se rencontrer avant. Pour moi, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Si les femmes sont mariées ou si elles ne le sont pas, si elles ont un travail, si elles n'en ont pas. Bref, je vois si moi, je suis rassuré dans leur situation à elles, personnelle, en me disant elles sont parfaitement capables d'assumer un enfant, de l'élever, de l'éduquer, sans qu'elles aient besoin de moi, et aussi de leur fournir une éducation convenable. Je ne veux pas donner mon sperme à des femmes qui ne savent pas lire ni écrire. Je veux être serein. Je ne souhaite pas être inquiet par rapport au devenir de cet enfant ou avoir un enfant qui arrive à 15 ans et qui est vraiment mal dans sa peau et qui me rejette cette faute sur moi. Donc c'est pour ça que je sélectionne avec mon instinct. Il n'y a aucun cadre légal qui protège les couples et moi. Donc à savoir que moi je peux reconnaître les enfants quand j'en ai envie et elles peuvent venir me demander une pension alimentaire quand elles en ont envie. Heureusement ce n'est jamais arrivé. Les femmes qui le font, alors il y en a certaines qui sont très attentionnées par rapport à l'anonymat et ne veulent pas que le donneur revienne dans leur vie. Et il y en a d'autres, au contraire, qui souhaitent que leur futur enfant puisse rencontrer leur donneur. Moi, je pense vraiment qu'il faut que les enfants puissent avoir accès à leur géniteur. Les dons pour moi sont gratuits. Je n'entends pas faire ça de manière payante. Alors, soit on faisait les inséminations dans un hôtel, soit on pouvait faire les inséminations chez moi. Je pratique exclusivement la méthode artisanale. Je me masturbe dans un endroit. Je mets le sperme dans une seringue. Et puis après, elles utilisent la seringue, elles, de leur côté. Et moi, je m'en vais. Il n'y a jamais eu aucun rapport sexuel dedans. J'ai commencé à tenir un carnet dans lequel je note les couples à qui j'ai donné et quand le résultat positif est arrivé. Suite à mes dons, il y a 40 enfants qui sont nés, dont 3 fois des jumeaux. Donc j'ai constaté que les dons réussissaient en moyenne au bout du 6e essai. J'ai été mobilisé 370 fois depuis que j'ai commencé. C'est énorme. Au début, je pensais pas que j'allais faire autant de dons de sperme, évidemment. J'ai tout simplement continué parce que y a des couples qui viennent me voir et qui demandent à faire le deuxième enfant. Et puis après, j'ai continué parce que c'est rentré dans ma vie. Je sais pas d'autres mots, ça fait partie de mon quotidien. Je suis très heureux de les avoir aidés. Et puis c'est vrai qu'on a eu l'occasion de me remercier de manière très chaleureuse et ça me touche énormément. Ça a eu un impact dans ma vie très important. Et je suis toujours très heureux d'avoir des nouvelles des enfants, des femmes que j'ai aidées, voire même de leur famille. Je pense qu'elles m'ont aussi aidé quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais elles m'ont enrichi en tant qu'être humain et je trouve que leur aventure est très belle. Ça fait 8 ans que dans ma famille, ils sont au courant. Mes amis sont au courant, mais que mes amis proches. Enfin, je ne suis pas un porte-étendard. Voilà, mes associés dans le monde professionnel sont au courant. Maintenant, la procréation médicalement assistée est autorisée pour les couples de femmes et les femmes célibataires à l'hôpital. Mais je continue de faire des dons. Moi, je trouve que la démarche, comme je le fais, est tellement plus humaine, tellement plus naturelle. Je n'irai pas donner aux sécos, tout simplement parce qu'il y a l'anonymat des donneurs et que le donneur et que la receveuse se rencontrent. Ça paraît être plus humain. Le fait de donner aux sécos, c'est aussi de ne pas savoir à qui on donne. Et je ne voudrais pas que mon don serve à des personnes qui sont clairement homophobes, par exemple. Ça, pour moi, ce serait inconcevable. J'imagine un père néo-nazi avec un de mes enfants. Alors là, enfin, un de mes enfants, c'est pas de mes enfants. N'importe qui, au final, peut être issu d'un don de sperme sans le savoir. Et ça, c'est... Il y a des personnes qui, à 30, 40 ans, découvrent que leur père n'est pas leur père biologique. Enfin, on se croirait dans la Russie communiste, quoi. On ne dit rien. Et puis, la centrale, elle explose. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc... Si je ne veux pas donner aux sécos, c'est aussi parce que je ne veux pas que les couples mentent à leur enfant par rapport à leur mode de conception. Le sécos permet au couple de mentir à l'enfant par rapport à son mode de conception, et ça, c'est intolérable.
Bon, c'est sûr que les 7 naissances qui m'inquiètent à côté des 40 de Victor, c'est un peu petit bras. En réalité, ça me fait penser que mon idée de don, j'en ai facilement parlé autour de moi, sauf à ma famille. C'est bête, mais c'est comme si en donnant, j'allais dilapider un patrimoine génétique familial en douce. Et je crois que je préfère éviter leurs commentaires. Et en fait, le récit de Victor me fait sérieusement douter de ma démarche. Si je donne aux sécos, à l'hôpital, j'aimerais quand même que les enfants nés de dons soient au courant qu'ils sont issus d'un don de gamètes, que leurs parents leur disent la vérité. Ça me semble être la moindre des choses. Mais je ne sais pas si ce sera le cas en réalité. Et finalement, dans ces conditions, je suis plus du tout certain de vouloir donner mes paillettes. Quelques jours après, je reçois une lettre de l'hôpital.
Ah, mais c'est mes analyses de l'hôpital. Sérologie, VIH négatif. Analyse d'urine. Négatif, négatif. Et le spermogramme. 89, 31, 555. Qu'est-ce que c'est ça?
Mmh.
C'était Les Paillettes, deuxième épisode, un reportage de Clément Baudet réalisé par Émilie Vallat et mixé par Manon Houssin. Merci au docteur Devez, à Audran, à Victor, à Benjamin et à Frédéric Letellier. C'est Jeanne Coppet, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Justine Calais, notre stagiaire.